Bonjour, bienvenue pour la 8e édition de Lire et Écrire sur Studio Zef 91.1 en FM et en podcast sur studiozef.fr Lire et Écrire, où vous retrouverez toutes les émissions. Quelques petits changements sur la nouvelle grille des programmes. Lire et Écrire sera présente sur les ondes avec une émission par mois, diffusée tous les samedis de 14h à 15h. Samedi 22 septembre, en tant qu'atelier d'écriture Alep et Studio Zef, je participerai au grand jeu de Poule d'Oie, qui aura lieu évidemment à Blois, où je vais animer un mini-atelier d'écriture au sein du château de Blois. Il s'agira à l'apprenti sorcier, en fonction de son âge, de faire un petit texte comprenant un nombre de mots spécifiques tirés d'une liste fournie. Les volontaires pourront enregistrer leur prose pour une émission spéciale sur nos ondes. Au cours de la pause estivale, je parcours les vides-greniers et les bourses aux livres pour remplir ma bibliothèque et ainsi pouvoir vous présenter les principales œuvres que je possède. À Celles-sur-Cher, j'ai rencontré une association berrichonne, l'occasion de lire, qui proposait son livre issu d'ateliers d'écriture, édité par le lycée professionnel Albert Bayet de Tours dans le cadre d'une formation à l'édition pour leurs élèves. Les liens seront en bas du podcast. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai aussi nos amis de Bordeaux et Bergerac avec lesquels j'échange sur leur page dédiée. L'écriture est un support d'échange sur des situations vécues, des choses vues, mais aussi sur nos sentiments, notre compréhension du monde qui nous entoure, ses opinions, ses doutes, ses théories. Mais l'écriture ne sert à rien sans le lecteur. Vous allez me dire que vous écrivez un journal. Oui, certes, mais il y a le lecteur qui n'est autre que l'auteur, qui ainsi garde précieusement en mémoire des moments de son existence pour les extraire plus tard. De nos jours, dans un flot d'images par la télé, le téléphone, le cinéma, l'Internet, les descriptions de paysages, de la nature, des sites sont moins importants. Il suffit de citer l'endroit pour que le lecteur aille sur Google pour admirer le lieu. On insiste plus sur les atmosphères, les sentiments, les comportements, les ressentis, les pensées. C'est toute la différence entre un film et un roman, d'autant plus si les acteurs ne sont pas capables de faire ressortir dans l'expression de l'ensemble de leur corps ce qu'ils ont à l'intérieur. Le livre a donc encore beaucoup à apporter sur notre humanité. Puisque je viens de vous parler de description, je viens de découvrir, n'oubliez pas que je n'ai qu'une culture littéraire facultative et pas celle de la faculté, il s'agit de William Somerset Maugham. Il est né en 1874, décédé en 1965 au Cap Ferrat, bien que de nationalité anglaise. Globetrotteur, il se sert de son expérience et des histoires ou légendes qu'on lui raconte pour ses descriptions. Il a écrit beaucoup de nouvelles. Dans ses nouvelles, il est le narrateur, mais c'est toujours l'histoire d'un autre personnage qu'il écoute, soit directement, soit lu par un autre conteur ou raconté par quelqu'un d'autre. Son humour est toujours au second degré. Il peut être décapant sans jamais être vulgaire, insultant. Dans Le Facteur humain, il termine sa nouvelle par cette phrase dite par son interlocuteur à propos de son histoire que celui-ci vient de lui raconter. Et puis, de toute façon, il n'y a pas là matière à écrire une nouvelle. Ce qui est bizarre quand on écrit justement une nouvelle sur cette histoire. Il a aussi écrit quelques romans, dont Le fil du rasoir, ainsi que des pièces de théâtre. Dans Le fil du rasoir, il oppose deux personnages qui s'aiment, son premier au mariage, Larry Darrell et Isabelle Bradley. Le premier aviateur pendant la guerre de 14 prend conscience qu'il doit faire le tour du monde pour trouver des réponses à ses questions sur l'existence, sa vie. Il renonce à la fortune, au mariage, à son amour, et la seconde fait le choix de la stabilité, la sécurité et le confort des gens fortunés. Au milieu se trouve un dandy qui est déplaisant, insupportable, mais qui devient pour l'auteur au fil des ans attachant. C'est le pivot de l'histoire, celui qui permet d'avoir des nouvelles des deux personnages principaux en tant qu'oncle de cette dernière. Larry développe une philosophie de vie aux antipodes du rêve américain, mais il est de nos jours très en avance sur son temps, nous qui sommes au seuil de ses choix qu'il faudra prendre pour sauver notre planète ou la détruire.
On somnolait chez nous comme ça. Dans notre jungle, le calme plat. Il a déboulé dans le soir en disant mes mains sont encore au port. Moi j'étais largué, classé, elle était bouche bée. Et lui c'était Robert Taylor. Comme dans ses nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Ils sont faits pour deux, ces bambous. Trois là-dedans, ça va plus. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Je voudrais qu'il s'en aille, toi je l'ai. Avec mes détails, mes haltères. Il portait des lions sur le dos. Pour elle comme cadeau, ça salissait tout. Moi je me sentais vieillot, fidèle, propriétaire d'elle, malheureux comme tout. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset. Les femmes sont sensibles à tout ça. Laissez-nous tranquilles, basket, chocolat, noisette, sur notre canapé. Allez, Somerset, ailleurs, casser les autres cœurs des autres fiancés. Somerset Maugham. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham.
Voici deux passages du fil du rasoir de Somerset Maugham. À ce moment, la porte s'ouvrit et le maître d'hôtel introduisit Gregory Brabazon. En dépit de son nom, Gregory Brabazon n'avait rien de romanesque. C'était un homme petit, très gros, chauve comme un œuf, à l'exception d'une couronne de cheveux noirs bouclée autour des oreilles et sur la nuque. Sa figure congestionnée et imberbe donnait l'impression d'être sur le point de fondre en une abondante transpiration. Il avait les yeux gris et vifs, des lèvres sensuelles et des bajoues. Il était anglais et je l'avais rencontré quelquefois à Londres dans des soirées de vadrouille. Très jovial, très cordial, il riait beaucoup. Mais point n'était besoin d'être femme psychologue pour deviner sous cette bruyante bonhomie un homme d'affaires très retors. Durant quelques années, il avait été le décorateur le plus en vogue de Londres. Il avait une grosse voix claironnante, de petites mains grasses merveilleusement éloquentes. Avec des gestes expressifs, avec quelques paroles agitées, il était capable de si bien exciter l'imagination d'un client hésitant que celui-ci ne pouvait guère lui refuser une commande, qu'il acceptait alors d'un air condescendant. Le maître d'hôtel revint portant un plateau de cocktails. « Nous n'attendrons pas Isabelle, » dit Mrs. Bradley en se servant. « Où est-elle ? » demanda Elliot. « Elle est allée jouer au golf avec Larry. Elle a prévenu qu'elle serait peut-être en retard. » Elliot se tourna vers moi. « Larry, c'est Laurence Darrell. Isabelle et lui sont, paraît-il, fiancés. » « Elliot, je ne savais pas que vous buviez des cocktails, dis-je. »« Je n'en bois pas, » répondit-il d'un air renfrogné tout en sirotant le sien. « Mais dans ce pays barbare de la prohibition, que peut-on faire ?» Il soupira. « On commence à en servir dans quelques maisons à Paris. Les mauvaises fréquentations gâtent les bonnes manières. »« Quelle sottise, Elliot, » fit Mrs. Bradley. « Son ton était assez bon enfant, mais ferme. Et j'en conclus qu'elle était une femme de tête. L'air amusé et pénétrant dont elle regarda Elliot me laissa soupçonner qu'elle ne se faisait pas d'illusions sur son compte. Je me demandais ce qu'elle allait faire de Gregory Brabazon. J'avais perçu le coup d'œil professionnel dont il avait, en entrant, embrassé le salon et l'involontaire mouvement de surprise de ses sourcils broussailleux. La pièce était en effet étonnante. Le papier des murs, la cretonne des rideaux et des meubles capitonnés étaient du même dessin. Au mur étaient accrochées des peintures à huile lourdement encadrées d'or. Les Bradley les avaient évidemment achetées lors de leur séjour à Rome. Vierge de l'école de Raphaël, vierge de l'école de Guido Reni, paysage de l'école de Zuccarelli, ruines de l'école de Panini. Il y avait des trophées rapportés de Pékin, des tables en ébène trop richement sculptées, d'immenses vases cloisonnés. Il y avait encore des bibelots achetés au Chili et au Pérou, nus, obèses, en pierres rares et poteries diverses. Il y avait aussi un bureau Chippendal et une vitrine en marqueterie. Sur les abat-jours en soie blanche, un artiste mal inspiré avait peint des bergers et des bergères en costume de watteau. C'était hideux, et pourtant, je ne sais pourquoi, sympathique. De l'ensemble se dégageait une atmosphère d'intimité, et l'on avait l'impression que cet incroyable fouillis avait un sens. Ces objets disparates formaient un tout parce qu'ils faisaient partie de la vie même de Mrs. Bradley. Nous venions de finir nos cocktails quand la porte s'ouvrit brusquement. Une jeune fille entra, suivie d'un jeune homme. J'ai fait mention de Suzanne Rouvier au début de ce livre. Je la connaissais depuis 10 ou 12 ans, et à l'époque dont je parle maintenant, elle ne devait pas être loin de la quarantaine. Elle était grande, avec un buste court, de longues jambes et de longs bras. Et son maintien était dégingandé, comme si elle ne savait que faire de ses membres démesurés. La couleur de ses cheveux changeait selon son caprice, mais elle était le plus souvent d'un brun tirant sur le roux. Elle avait un petit visage carré aux pommettes très proéminentes, violemment rougies, et une grande bouche aux lèvres lourdement peintes. Rien de tout cela ne paraît séduisant, et pourtant l'ensemble était. Elle avait, il est vrai, une jolie peau, de grandes et solides dents blanches, des yeux bleus pleins de vie. C'était d'ailleurs ce qu'elle avait de mieux. Et elle en tirait le meilleur parti par un maquillage adroit de ses cils et de ses sourcils. Elle avait un air malin, fouineur et cordial, et elle alliait à un très bon cœur une bonne mesure de rudesse. Il lui en avait fallu dans la vie pour qu'elle avait mené. Sa mère, veuve d'un petit fonctionnaire du gouvernement, était retournée, après la mort de son mari, vivre de sa pension dans son village natal en Anjou. Et quand Suzanne atteignit ses 15 ans, elle la plaça en apprentissage chez une couturière de la ville voisine, assez proche pour lui permettre de revenir passer des dimanches à la maison. Ce fut au cours de la quinzaine de ses vacances, elle venait d'avoir 17 ans, qu'elle fut séduite par un artiste qui passait l'été au village pour peindre des paysages. Elle savait déjà fort bien que, n'ayant pas d'argent, elle n'avait guère de chance de se faire épouser. Et quand à la fin de la saison, le peintre lui proposa de l'emmener à Paris, elle accepta avec empressement. Il la fit vivre avec lui dans une grande caserne à atelier de Montmartre. Et en sa compagnie, elle passa une année très agréable. Au bout de ce temps, il lui déclara que, n'ayant pas vendu une seule toile, il ne pouvait plus davantage s'offrir le luxe d'une maîtresse. Depuis un moment déjà, elle s'attendait à cette nouvelle et n'en fut pas déconcertée. Il lui suggéra de retourner chez elle, et comme elle refusait, il lui dit qu'un autre peintre, habitant le même immeuble, serait heureux de prendre la succession. L'artiste, qui lui nomma, lui avait fait deux ou trois fois déjà des avances. Elle l'avait envoyé promener, mais de si bonne grâce qu'il ne s'en était pas offusqué. Comme il ne lui déplaisait pas, elle accepta l'offre avec placidité. C'était pratique de ne pas devoir faire la dépense d'un taxi pour le transport de sa malle. Son second amant, bien plus âgé que le premier, mais encore acceptable, fit d'elle des portraits dans toutes les attitudes imaginables, nue et vêtue. Elle passa avec lui deux années heureuses. Elle était fière de penser qu'en posant pour lui, elle avait contribué à son premier véritable succès. Et elle me montra, découpée dans un journal illustré, la reproduction du tableau qui le lui avait valu. Une galerie américaine l'avait acquis. C'était un nu de grandeur naturelle où elle était allongée, à peu près dans la même pose que l'Olympia de Manet. Son amant n'avait pas été long à découvrir que dans les proportions de son corps, il y avait quelque chose de moderne, d'amusant. Et en affinant encore jusqu'à l'extrême sa minceur naturelle, il avait étiré ses longues jambes et ses longs bras, accentué ses hautes pommettes et donné à ses yeux bleus une grandeur extravagante. D'après la reproduction, je ne pouvais naturellement pas juger des couleurs, mais je fus sensible à l'élégance du dessin. Le tableau valut au peintre une notoriété suffisante pour lui permettre d'épouser une admiratrice, une veuve fort aisée, et Suzanne, sachant fort bien qu'un homme doit songer à son avenir, accepta sans amertume la rupture de leur cordiale relation. Car à présent, elle avait conscience de ce qu'elle pouvait offrir. Elle aimait la vie d'artiste, poser, l'amuser, et après une journée de travail, elle prenait plaisir à aller s'asseoir au café avec des peintres, leurs femmes et leurs maîtresses, à les entendre discuter d'art, dauber sur des marchands et raconter des histoires paillardes. Ce fut lors d'une de ces réunions que, sentant venir la rupture, elle avait dressé ses plans. Elle avait jeté son dévolu sur un jeune homme qu'elle savait libre et à qui elle trouvait du talent. Elle profita d'un moment où elle se trouva seule avec lui au café pour lui expliquer la situation et sans autre préambule, lui proposa la vie commune. « J'ai 20 ans, je suis bonne ménagère. Je t'économiserai de l'argent dans ton intérieur et t'éviterai des frais d'un modèle. Regarde ta chemise, n'est-ce pas une honte? Et ton atelier, quel taudis? Il te faut une femme pour prendre soin de toi. »
Thank you. que les paumés jouent avec leurs manies. Dans leurs chambres blindées, leurs fleurs sont carnivores. Et quand leurs monstres crient trop près de la sortie, ils accouchent de scorpions et pleurent des mandragores. Et leurs aéroports se transforment en bunkers. À 4 heures du matin derrière un téléphone, quand leur voix qui s'appelle se change en revolver et s'invite à calter en se gueulant comme un. Les tagues et les paumés se cherchent sous la pluie et se font boire le sang de leur vision perdue. Et dans leurs yeux mescales masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient les rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant l'amour folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leur ligne et retombent dans leurs bras glacés de baby d'or. Et les paumés se traînent chez les Borgia, suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll, puis s'enfoncent comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur cou. Et lorsque leur troupe joue à guichet fermé, ils tournent dans leur cachot avec la gueule en bois. Sont comme les joueurs courants décapités, ramassés leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les paumés s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau, puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka en se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les tingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott: la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazous. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar, et cet ange qui me gueule: viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon.
Thank you.
Dans l'élan créateur, une nouvelle du recueil « Amour singulière », il se moque de la bourgeoisie intellectuelle où l'art est essentiellement issu du bon goût recommandé par ceux qui ont une notoriété en la matière et qui ne sort pas des musées ou des bibliothèques. Un certain Albert, dans le rôle du cave Sorbif, va tout faire écrouler pour qu'il en sorte un art plus accessible au grand public sans sombrer dans la vulgarité. N'y a-t-il pas là quelque chose qui touche l'auteur directement ? L'élan créateur, amour singulière. Mrs. Albert Forrester avait eu une vocation précoce. Son premier texte, paru un recueil d'élégies, date de ses 18 ans, bien avant son mariage. Depuis, ses publications, tantôt en prose, tantôt en vers, se sont succédées à des intervalles de 2 ou 3 ans, car la haute idée qu'elle s'était toujours faite de son art lui a interdit de bâcler ses ouvrages. À l'époque où elle a écrit la Statue d'Achille, elle venait d'atteindre l'âge respectable de 57 ans. L'ample volume de sa production antérieure n'a donc pas de quoi surprendre. Elle avait déjà offert à l'humanité une demi-douzaine de recueils de poèmes. Ils portent des titres latins tels que Felicitas, Pax Maris et Aes Triplex. Tous dans la note austère, car peu encline à danser le rigodon, s'amuse à adopter plus ou moins le ton de la pavane. Fidèle à l'élégie, praticienne du sonnet, Mrs. Forrester s'est toujours distinguée en composant des odes, genre plutôt négligé par les poètes récents. Elle l'a fait refleurir, et l'on peut affirmer sans crainte de se tromper que son ode au président Falière aurait sa place dans toutes les anthologies de la poésie anglaise. Admirable par la sonorité superbe de ses cadences, elle présente de surcroît d'heureuses descriptions du doux pays de France. Mrs. Albert Forrester y célèbre la vallée de la Loire et le souvenir vivant de Dubélé, Chartres et sa cathédrale, aussi précieux vitraux, les villes de la Provence inondées de soleil. Sa compréhension intime de ce pays est d'autant plus remarquable qu'elle ne connaît de la France que la ville de Boulogne. Dans les débuts de son mariage, elle avait pris pour visiter cette localité un bateau d'excursion au départ de Margate. Mais mortifiée dans sa chair par les affres du mal de mer et humiliée dans son intelligence par l'incapacité des habitants de cette station balnéaire fréquentée à comprendre son français, pourtant si naturel, elle avait pris la résolution de ne plus s'exposer à de telles épreuves, à la fois dégradantes et désagréables. Aussi, ne s'est-elle jamais plus risquée sur les flots perfides, ce qui, dans Pax Maris, ne l'a pas empêchée d'exalter l'océan en des vers harmonieux et solennels. L'on compte aussi des passages sublimes dans l'Ode à Woodrow Wilson, et je déplore qu'un revirement de l'auteur à l'égard de ce président, à coup sûr pétri de bonnes intentions, l'est amené à exclure ce poème de la nouvelle édition. Mais il faut reconnaître, je crois, que Mrs. Albert Forrester a donné à la prose le meilleur de son génie. On lui doit plusieurs volumes d'essais, bref, mais admirablement composés, abordant des sujets tels que l'automne dans le Sussex, la reine Victoria, la mort, le printemps dans le Norfolk, l'architecture anglaise sous le règne des rois Georges, la personnalité de Diaghilev, l'œuvre de Dante. D'autre part, elle a consacré des études où la fantaisie le dispute à l'érudition, à l'architecture jésuite du XVIIe siècle ou l'apport littéraire de la guerre de Cent Ans. C'est son œuvre en prose qui lui a attiré une cour d'admirateurs fervents, un phalanstère restreint mais raffiné, selon la belle formule que lui a inspirée son style incomparable. Depuis longtemps, il la célébrait comme la plus grande styliste anglaise du XXe siècle. Elle-même en convenait. Le style était son fort. Elle savait y allier la noblesse et la verve, le raffinement et l'éloquence. Et seule la prose lui permettait de donner libre cours à l'humour, délectable dans sa sobriété que ses lecteurs trouvaient irrésistible. Il ne naissait ni du jeu des idées, ni de l'emploi du langage, mais poussant bien plus loin la subtilité, prenait appui sur la ponctuation. Dans un éclair, son génie lui avait révélé les ressources comiques du point-virgule, qu'elle avait, par la suite, amplement exploitées avec un art exquis. Si vous étiez à la fois cultivé et doté d'un grand sens de l'humour, sa répartition des points-virgules, sans vous paraître vulgairement hilarante, avait le don de vous faire rire sous cap, avec un ravissement à l'échelle de votre culture. Ses amis prétendaient que cette forme d'humour accusait l'épaisseur et l'outrance de toutes les autres. Plusieurs auteurs s'y étaient essayés avant elle, mais sans y parvenir. Quoi que l'on pût penser de Mrs. Albert Forrester, il fallait bien admettre qu'elle avait l'art d'extraire l'humour du point-virgule jusqu'à la dernière goutte et que, sur ce terrain, on ne connaissait personne qui lui vint à la cheville.
You got
Les nouvelles rattachées à ces voyages sont passionnantes, avec en arrière-fond une critique sans en avoir l'air du colonialisme et des comportements des colons au milieu des populations autochtones, dans le sortilège malais par exemple, ou l'archipel aux sirènes. Messagerie d'Orient, le sortilège malais. Mrs. Hamlin, étendue sur sa chaise longue, regardait paresseusement les voyageurs monter à bord de la passerelle. Le navire était arrivé à Singapour pour la nuit et depuis l'aube, on chargeait la cargaison. Les treuils n'avaient cessé de grincer toute la journée, mais à présent, ses oreilles s'étaient habituées à leur vacarme obsédant. Elle avait déjeuné à l'hôtel de l'Europe et n'ayant rien de mieux à faire, s'était promenée en pousse-pousse à travers la multitude de rues animées de la ville. Singapour est le lieu de rencontre de plusieurs races. Les Malais, bien que natifs du pays, vivent mal à l'aise dans les villes et y sont peu nombreux. Ce sont les Chinois, souples, alertes, actifs, qui se pressent dans les rues. Les Tamouls, à la peau basanée, glissent en silence, pieds nus, comme s'ils ne faisaient que séjourner pour un temps dans un pays étranger. Mais les Bengalis, doucereux et prospères, évoluent dans leur milieu avec aisance et assurance. Les Japonais, rusés et obséquieux, semblent toujours occupés à quelque affaire pressante et secrète. Et les Anglais, en casque colonial et complet de coutils blancs, qu'ils passent à toute vitesse en voiture ou qu'ils flânent dans leur pousse-pousse, affichent un air nonchalant et détaché. Les autorités qui veillent sur ces populations grouillantes font respecter la loi avec une impassibilité bon enfant. À présent, accablée par la chaleur, Mrs. Hamlin attendait que le navire reprît son long périple à travers l'océan Indien. D'une main plutôt forte, car c'était une femme corpulente, elle fit signe au docteur et à Mrs. Linsell, tandis qu'ils montaient à bord. Elle était restée sur le bateau depuis son départ de Yokohama et avait observé avec amusement et aigreur l'intimité qui s'était nouée entre eux deux. Linsell était officier de marine attaché à l'ambassade britannique de Tokyo et elle s'étonnait qu'il acceptât avec autant d'indifférence les assiduités dont le docteur poursuivait sa femme. Deux jeunes gens montèrent par la passerelle et elle s'amusa à tenter de découvrir, d'après leur comportement, s'ils étaient mariés ou célibataires. Tout près, des hommes faisaient cercle, assis dans des fauteuils de rotin, des planteurs, pensait-elle, à en juger par leur costume kaki et leur chapeau à large bord de feutre à double épaisseur. Et ils ne laissaient pas un instant de répit aux garçons de pont avec leurs commandes. Ils parlaient fort et riaient, car ils avaient tous bu suffisamment pour être pris d'une sotte hilarité. Ils arrosaient de toute évidence le départ de l'un des leurs. Mais Mrs. Hamlin n'aurait su dire lequel devait être son compagnon de voyage. L'heure du départ était imminente. D'autres passagers se présentèrent. Et enfin, Mr. Jeffson gravit la passerelle d'un pas nonchalant et très digne. Il était consul et retournait en métropole pour les vacances. Il avait rejoint le bateau de Shanghai et s'était aussitôt montré très empressé auprès de Mrs. Hamlin. Mais elle n'était pas d'humeur, en la circonstance, à accepter ce qui, de près ou de loin, pouvait ressembler à des galanteries. Elle fronça les sourcils en pensant à la raison qui la ramenait en Angleterre. Elle allait passer Noël en mer, sans personne à ses côtés, qui se souciât d'elle le moins du monde, et, un instant, elle ressentit un petit serrement de cœur. Cela la contrariait qu'un sujet qu'elle était si fermement décidée à chasser de son esprit revint constamment l'importuner, malgré elle. Voilà, c'est le moment de la consigne. Donc, décrire un ou deux personnages, ainsi que l'environnement dans lequel ils se trouvent et pourquoi. Lieu, transport en commun, auto, salon, musée, château, au choix. Physique, habit, position, voix, façon de parler, au choix. Et comme cause, un trajet, un accident, une visite, une querelle, des retrouvailles, toujours au choix. Voilà. Et maintenant, à vos plumes. Et la prochaine fois, ce sera au mois de novembre. Merci.